Les nuits de France Culture, la nuit des gares. Alors nous n'allons pas complètement quitter les gares parisiennes, mais bientôt, après notre entretien avec vous, Didier Leroy. Bonsoir Didier Leroy.
Bonsoir Philippe Garbi.
Et bientôt donc nous quitterons la région parisienne pour la gare qui n'est autre que le centre du monde.
La gare de Perpignan.
Bien. Je vois que vous êtes alors, comment dit-on, ferrovipat
Le terme ferrovifile.
Fil.
Oui, plus opportun.
Oui, parce que
Pat,
oui,
mais... ça serait un peu une maladie, et puis par les temps qui courent, le ferrovifile.
Oui, oui, c'est mieux. Mais il y a des vrais fous quand même des trains.
Oui, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent. La gare a une grande importance dans la vie française, dans la grande toile du chemin de fer français, et elle reste, même si elle a disparu, une référence historique dans le village, dans la ville. On n'est pas sans intérêt pour sa gare, et la disparition d'une gare et la disparition du bâtiment, quelquefois, est toujours un peu la disparition de l'âme du village. Comme celle de l'école, comme celle de la poste. Elle fait partie du développement, de la richesse de nos communes. Et elle ne laisse pas indifférent.
Alors ça ne laisse pas indifférent dans les campagnes, enfin en région, en France, bien entendu, mais ça ne laisse pas indifférent non plus à Paris. Et c'est d'une gare parisienne disparue que l'on va parler en votre compagnie, Didier Leroy, puisque vous publiez aux éditions de La Vie du Rail, il y a 50 ans, 3 points de suspension, Paris-Bastille. Alors ce Paris-Bastille, si on est parisien depuis les moins de 20 ans, les moins de 30 ans, les moins de 40 ans, etc., ne savent absolument pas de quoi il est question. Sinon, s'ils se sont intéressés quand même à l'histoire de leur quartier, ça pourrait être la Bastille, mais c'est le quartier, c'est tout Paris et c'est toutes les gares. Eh bien non, il manque une gare à Paris, il en manque plusieurs. Mais en tout cas, il en manque une importante, c'est la gare de Paris-Bastille. Alors c'est un très beau livre, alors c'est ce qu'on appelle un beau livre, donc ça veut dire qu'il y a un texte érudit et il y a une iconographie parfaite et nostalgique.
Oui, alors ce titre-là se trouve historiquement à sa place, puisque c'est le 13 décembre 1969, exactement à 0h50, que part la dernière fois un train de voyageurs de la gare de la Bastille, qui se trouvait au pied de la colonne de Juillet, pour Boissy-Saint-Léger, dans l'actuel Val-de-Marne. Et la gare de la Bastille, comme vous l'avez signalé, c'était pas une petite gare, c'était une grande gare de banlieue de Paris, qui a eu une importance conséquente, avec des départs tôt le matin, jusque très tard le soir, puisque le dernier train partait à 0h50, avec un service constant tout au cours de la journée. À l'origine, de Paris à Verneuil-l'Étang, et depuis 1953, de Paris à Boissy-Saint-Léger, dans le département de la Seine, qui est l'actuel Val-de-Marne, et qui desservait donc les gares du bord de la Marne, qui ressemblaient d'ailleurs à des chalets.
Mais oui, parce que alors c'est incroyable. Alors, vous savez, c'est la nuit des gares. Alors c'est aussi la nuit des trains, bien entendu, parce que sur des lignes de chemin de fer, il y a des trains. Mais il faut s'arrêter à toutes les gares. Il faut partir de la première gare, c'est-à-dire la gare de départ, la gare Terminus, qui est Paris-Bastille, sur laquelle, et ben voilà, on trouve maintenant l'Opéra Bastille, donc. Mais vous avez parlé du 13 décembre 1969, Didier Leroy, mais il faudrait remonter aussi un peu plus loin, presque 90 ans avant, enfin en 1850.
Voilà.
Alors 110 ans même, oui.
110 ans. Donc la première ligne partant de la gare de la Bastille, c'est 1859. Et la totalité de la ligne, c'est-à-dire sur 54 kilomètres, mettra 33 ans à être réalisée.
Ce qui veut dire peut-être que finalement on n'en voulait plus dès le début, on s'est dit on va faire une gare et puis après...
C'est pas tellement qu'on n'en voulait plus, c'est qu'il y avait des difficultés d'expropriation et des difficultés liées au tracé. Hein.
C'est bien beau de faire une gare, mais il faut ensuite...
Il faut il fallait donc avoir des autorisations, il fallait aussi des investissements qui étaient lourds, et donc on tâtonne, et puis la Compagnie de l'Est qui avait cet ensemble de lignes, puisque jusqu'en 1938, le chemin de fer français était partagé en plusieurs compagnies, en fonction des territoires en France. Et les lignes de l'Est étaient dévolues à la Compagnie des chemins de fer de l'Est, celle du Nord à la Compagnie du Nord, celle du
Sud
Midi
à
la Compagnie du Paris-Orléans-Midi, celle de desservant Nice, Cannes et même les colonies par le biais des bateaux, la célèbre Compagnie du Paris-Lyon à la Méditerranée. L'Ouest et l'État se sont réunis avec leurs gares qui étaient Saint-Lazare et la gare Montparnasse. Donc on avait un certain nombre de compagnies, on avait même, à cause des vicissitudes de la guerre, le réseau, l'administration du réseau d'Alsace-Lorraine, qui prenait les gares de Mulhouse, de Strasbourg, compte tenu de l'histoire. Mais au 1er janvier 1938, c'est la création pratique de la Société nationale des chemins de fer français. Et la gare de la Bastille, la ligne V, parce qu'on l'appelait la ligne de Vincennes, c'était son nom, et ça allait rester jusqu'au bout, était dévolue à la Compagnie des chemins de fer de l'Est. Or, la Compagnie de l'Est voulait quand même rentrer dans... On lui imposait, dans quelque sorte, de la construction de cette ligne. Et c'était des administrateurs qui, beaucoup aussi, étaient banquiers. Et donc, ils voulaient rendre rentable. Alors, ça s'est fait un petit peu avec un clin d'œil de la Providence autour du parc Saint-Maur, puisque la Compagnie de l'Est va racheter le château de Saint-Maur et tous les terrains pour construire sa ligne, mais à l'origine, elle n'arrivait pas à les vendre, ces terrains. Or, elle va...
Le train va passer là où on peut le dire.
Le train va passer là, mais elle va offrir les terrains et même les pierres pour construire l'église, l'actuelle église au parc Saint-Maur, Notre-Dame du Rosaire, à proximité de la gare du parc Saint-Maur, ce qui va entraîner la création d'un quartier, et elle va faire une plus-value énorme sur les terrains. Donc voilà, c'est une anecdote de l'histoire, mais elle est réelle. Donc ça va mettre beaucoup de temps. 33 ans.
Mais c'est un train quand même qui est fait pour, évidemment, les banlieusards. Enfin, le mot banlieusard existe déjà au 19e siècle. Il faut bien qu'ils viennent travailler à Paris. Mais c'est aussi le week-end un train de plaisir, de loisir.
Voilà, il y a ces deux parties d'exploitation de la ligne. Il faut pas oublier que la ligne, à l'origine, allait jusqu'à Verneuil-l'Étang. Elle desservait des gares, le nom est très beau, Mandres-les-Roses, et elle permettait à toutes les marchandises voyageaient par le train. Il faut savoir qu'à l'époque, à cette époque, et ça a duré très longtemps, on peut dire presque même après la Seconde Guerre mondiale, que le chemin de fer était rentable avec les marchandises, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et on avait tous les producteurs, les petits producteurs, les artisans qui transportaient leurs marchandises, dont les roses de Mandres-les-Roses, pour aller où ? Ben, pour arriver en gare de la Bastille, remonter la rue de Rivoli et aller
aux
Halles, qui était un des lieux extrêmement une ruche de la vie économique parisienne.
Alors, dites-nous, décrivez-nous, Didier Leroy, cette gare de Paris-Bastille, qui est la couverture de votre livre,
oui.
bien entendu.
La gare de Paris-Bastille, donc, c'est un bâtiment assez joli, qui était fait de briques et de pierres, hein, avec une très grande façade, très classique. Et sur son... Donc, ça, c'est le côté ville, fermé par des grilles, c'était assez classique à cette époque, et de côté voyageur, il y avait une grande halle, donc qui recouvrait les voies, et une petite halle qui a été reconstruite après pour l'agrandir, hein, et un petit dépôt, on peut dire, une petite annexe. Voilà, à l'origine, les marchandises, les messageries, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, étaient très importantes, elles étaient au rez-de-chaussée, et le service des voyageurs à l'étage, parce que la gare se trouvait à l'étage. Et on peut penser que autour des années 36, le service des messageries a disparu du rez-de-chaussée et est monté à l'étage. Et le rez-de-chaussée sont devenus des commerces. Hein, on voit déjà apparaître un coiffeur à cette
pour dames
et qui existait encore en 1969. Donc on a une gare qui est belle, qui est confortable, avec des escaliers départ et arrivée, qui est vaste. Voilà. Un bâtiment qui est, comme je vous signalais, classique, avec des quais longs. Alors elle a la particularité d'avoir à l'extrémité des voies, au niveau de la grande salle des pas perdus, on peut dire, des chariots. Elle était techniquement intéressante, des chariots transbordeurs, parce que les locomotives qui arrivaient cheminées en avant à l'extrémité des voies glissaient d'une voie à l'autre pour aller se remettre en tête donc de la rame et faire le train pour la province.
Elle s'était pas électrifiée. Au début, non, bien entendu, mais
la grande particularité, et c'est ça qui en fait son charme, de la gare de la Bastille, c'est que jusqu'au dernier jour, 1969, elle n'a été exploitée à 100% qu'avec des locomotives à vapeur. On imagine très difficilement aujourd'hui de voir au cœur de Paris, de l'aurore autour de 5h du matin jusque tard dans la nuit, jusqu'à peu près 1h du matin, des locomotives à vapeur passant à intervalles réguliers, dans un sens étant d'un autre, en plein cœur de Paris.
En viaduc, pour commencer.
Alors, en viaduc, oui, un viaduc qui est très long, hein. Il fait 1022 mètres, le viaduc Daumesnil. Et c'est déjà, dans les années 60, une forme d'anachronisme que d'avoir cette gare et ces vieilles locomotives à l'époque de la DS-19, à l'époque de la caravelle de l'avion, à l'époque du Capitole de la gare d'Austerlitz qui roulait à 200 km/h, c'est 67. Et là, on a un monde. C'est ce qui en faisait son charme. C'est ce côté désuet qui en faisait son charme, qui n'avait pas bougé du tout. Vous rentriez dans la gare en 1859, 60, 60, et vous entriez en 1960, c'est-à-dire en 100 ans, on était dans les mêmes bâtiments, avec les mêmes guichets, le même sol, les mêmes tableaux, la même... Il y avait les locomotives, mais même les locomotives, elles sont restées très longtemps les mêmes. Hein, on voit les locomotives qui étaient très intéressantes, les 131 TB de 1925 à 1962, vont être les mêmes. Donc on a deux à trois types de locomotives, pratiquement en 100 ans.
Alors on a une petite gare, enfin une grande gare de voyageurs, mais une petite gare par rapport à une gare genre gare de Lyon, qui est pas très loin, ou la gare du Nord, ou gare de l'Est, etc. Et désuète, en tout cas avec une polluante, sans doute, en tout cas les trains qui partent comme ça.
Oui, alors on n'avait pas la notion de la pollution telle qu'on l'a aujourd'hui.
Non mais d'accord, mais quand le week-end les gens partaient à Joinville-le-Pont, etc. C'était dans la fumée.
Oui, dans la vapeur surtout.
Dans la vapeur.
Ouais, ouais, c'est surtout le panache blanc des locomotives, c'est de la vapeur d'eau.
Ah bon.
Donc, alors, je ne dis pas que ça n'était pas du tout polluant, hein, mais la notion de pollution n'était pas la même dans cette époque, ni pour les camions, ni pour les avions qui sont très polluants, par exemple. Quand on voit ces grands panaches, c'est de la vapeur d'eau. Et c'est vrai que...
Et on les voit hein, sur les photos.
Oui, c'est ce qui fait la beauté des locomotives à vapeur aussi.
Et de votre livre, donc, Didier Leroy. Parce que c'est vrai qu'on est tout le long de la ligne. On est dans la gare boulevard de Paris-Bastille, donc en plein Paris. On reconnaît d'autant plus que toute cette voie qui va jusqu'au bois de Vincennes, et puis après qui part donc dans la banlieue, à l'est, cette voie, maintenant, on peut l'emprunter parce que c'est une promenade plantée. Mais alors, on va faire comme si on était avant 1969. On quitte donc la gare de Paris-Bastille, qui sera démolie. En
1900, voilà, fin 84, elle a été utilisée quelque temps après sa fermeture, jusqu'en 84, comme hall de moyenne exposition. Et c'était très judicieux. C'est d'ailleurs un grand regret pour beaucoup. Il y a eu des comités de défense qui voulaient la conserver avec cette nouvelle vocation de bâtiment un peu restauré pour des salons de moyenne exposition. Il faut savoir qu'il y avait le salon du livre, le salon des antiquaires, le salon des cartes postales, les salons de jouets.
Ferroviaire.
Alors ce salon ferroviaire qui a été le plus réussi sous l'égide de la SNCF en 1976 et qui avait vu venir 75 000 visiteurs.
Ah, vous envoyez une photo étonnante. Enfin, tout
ah,
le
mais
long
c'était,
de...
là, moi-même, j'ai ma grande-tante qui était assez âgée, qui m'y a en conduit. J'étais le deuxième le matin. Et en l'espace d'un quart d'heure, il y avait 800 mètres de queue. Donc, j'ai eu la chance de rentrer une fois dans cette gare de la Bastille, de monter le grand escalier.
Tout est parti de là, si ça se trouve. Voilà, mais...
Ce qui est intéressant, c'est que la mémoire autour de la gare de Bastille, autour de la ligne de Vincennes, est restée très forte. Puisque quand j'ai sorti le premier livre qui s'appelait « La ligne de Vincennes, inoubliable panache » en 2006, le théâtre de Saint-Maur m'a demandé une conférence. Et à la conférence, il y avait 440 personnes. C'est-à-dire que c'est une mémoire qui est restée très forte et... Lorsque la gare disparaît en 1969, c'est unique en son genre dans l'histoire du chemin de fer français, c'est que pendant les derniers mois, il y avait constamment des personnes qui passaient bien au-delà des amateurs de chemin de fer. Et il y a une photo, on voit une dame bien classique, un petit peu bourgeoise, avec son tailleur un peu chic, qui est haut à l'extrémité d'un quai et qui regarde. Et la dernière soir, ceux qui l'ont vécu, qui en sont des témoins, rappellent que tout au cours de le dernier train qui part, il siffle, mais il siffle dès le matin. Dès le matin. Vous aviez des élèves de collège Albert Demain à Nogent-sur-Marne, qui se souviennent, hein, le père Dominique, le curé de la cathédrale de Créteil, était élève et se souvenait, m'a-t-il dit, des locomotives qui n'ont cessé de siffler depuis le matin jusque tard dans la nuit. Et le dernier train était très émouvant, il faisait très froid, il faisait moins 10, et il y a tout un groupe d'amateurs qui avaient loué un ou deux autobus de la RATP à Boissy-Saint-Léger pour très tôt le matin les ramener à Paris. Et il y avait beaucoup de personnes qui agitaient leurs mouchoirs le long de la ligne, surtout le long du viaduc d'Auménil, pour dire comme un au revoir. C'était comme si vraiment les voyageurs, les riverains avaient conscience que c'était une page de leur vie et de leur quartier qui tournait.
Alors ces gares donc qui étaient empruntées par cette ligne de Vincennes à partir de Paris Bastille. Ces gares, que sont-elles devenues? Alors on les voit en photo et finalement c'est l'essentiel pour nous, mais elles ont disparu, j'imagine. Oui. Enfin, alors celle de Joinville-le-Pont, c'est un petit chalet, il y a un balcon, il y a une balustrade, une marquise.
Alors malheureusement, nous sommes en 1969 et la notion de patrimoine n'est pas la même qu'aujourd'hui. Je ne vous cache pas que je regrette beaucoup la disparition des pavillons Baltard à Paris. Que les Halles partent à Rungis, c'était une nécessité. Que l'on détruise tous ces pavillons Baltard et ces caves qui étaient en briques tempérées, qui ont servi pendant quelque temps à des expositions de peinture, c'est quand même l'âme de Paris qui disparaît.
Tournage d'un film aussi.
Et Donc on est à une période où, dans les esprits, la notion de la richesse du passé, la réhabilitation du passé, ne fait pas partie de la, des centres d'intérêt.
Alors la guerre de Vincennes, style néoclassique, le fronton central.
Oui, on n'a même rien conservé, même pas le fronton. Je veux dire, c'est-à-dire que dans les gares de la ligne de Vincennes, entre Paris-Bastille et Boissy-Saint-Léger, actuellement, il n'en reste que deux. Une qui a été extérieurement bien conservée, qui a été rachetée par la ville de Paris, qui extérieurement, je le dis parce qu'intérieurement, elle a été complètement modifiée, elle a pu ses hauts plafonds, ses boiseries, mais extérieurement, elle est vraiment bien conservée, c'est la gare de Reuilly, qui est très belle, on voit une très grosse gare d'ailleurs, un bâtiment très classique avec un corps central et deux ailes, et ses grilles, elle a encore ses grilles d'origine, et il reste celle de Nogent-sur-Marne, alors celle de Nogent-sur-Marne, qui est conservée par la municipalité, et elle a été rachetée à la RATP, car vous savez que la ligne de Vincennes va être rétrocédée à la RATP pour faire le RER A, et pendant longtemps, elle va servir comme un local technique, j'allais dire, sans être entretenue par la RATP. Et elle a été rachetée par la municipalité de Nogent-sur-Marne, qui va la conserver dans un quartier qui est en complète mutation, parce que il y a des constructions énormes en ce moment avec le Grand Paris, et ça ne fait que se construire et de s'élever en étage. Il reste la gare de Nogent-sur-Marne, enfin l'ancienne gare de Nogent-sur-Marne. C'est les deux seuls bâtiments de la ligne de Vincennes qui demeurent aujourd'hui.
D'où l'intérêt de ce livre. Comment avez-vous trouvé toutes ces photos? Alors, vous nous avez dit, Didier Leroy, que c'est pas une réédition, c'est une nouvelle idée, c'est un nouveau livre sur le même sujet, mais en tout cas, il y a des tas de nouvelles photos, enfin, nouvelles photos, d'anciennes photos retrouvées, parce que j'imagine que quand vous faites des signatures, que ce soit dans des, enfin, vous parliez d'une conférence, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir et qui vous disent, ah, j'ai connu la ligne, tout ça, etc., et qui viennent avec des photos ou
voilà.
Des cartes postales.
Alors, vous l'avez bien remarqué, ce livre n'a rien à voir avec le précédent. Le précédent faisait part de l'histoire de la ligne dans sa totalité. Ce livre parle de la ligne entre Paris et Boissy-Saint-Léger, c'est-à-dire ce qui existait dans les 10 dernières années. J'ai voulu me situer dans les 10 dernières années, même si le livre a un rappel historique, parce que ça s'impose, mais la plupart des photos, des images, des documents, des objets font partie de ce qui se vivait pour le voyageur, pour le passant, dans ces années 60, on va dire.
Et déjà un petit peu comme avec déjà presque la nostalgie, parce qu'on savait que c'était la
oui,
fin.
Oui, alors vous savez, ça faisait partie de... On savait dès le début 60 que la ligne était condamnée, si vous voulez, dans sa fonction telle...
Enfin, l'entrée dans Paris, en tout cas, parce qu'en effet, vous l'avez
oui,
dit, elle
voilà,
a servi
qu'elle
pour
était, les RER. On savait qu'elle était vouée à disparaître. Il y avait dans le grand projet de l'aménagement de la région parisienne de Paul Delouvrier le problème des transports. Vous savez que vous avez Créteil qui avait 10-12 000 habitants en 1945-46, qui dans les années 60 en avait 30 000 et qui aujourd'hui en a plus de 90 000. Hein. Donc, inéluctablement, les transports avaient une place très importante et ils étaient appelés à s'adapter avec des choix politiques de création de villes nouvelles, si vous voulez. Alors, vous m'avez posé la question sur les images qui sont dans ce livre. En effet, quand on rencontre des personnes, bon, c'est le 22e livre que j'écris ou coécris. Ça veut dire que j'ai quand même une petite expérience des archives. J'aime les archives et j'aime retrouver, faire vivre des documents un peu inédits ou qui ont été oubliés dans des pochettes en cristal ou dans les petites boîtes jaunes Kodachrome depuis 50 ans. Et c'est un vrai plaisir que de pouvoir ouvrir une boîte et de faire revivre l'histoire à travers l'image. L'image est un document d'histoire. Et donc ce livre-là, qui a à peu près 300-320 photos documents, est pratiquement à 95% inédit. Et ce que j'ai voulu faire partager, et plus j'avance, plus ce domaine me touche, et touche des lecteurs, fort heureusement, si j'étais tout seul, ça serait un peu réducteur, c'est l'ambiance, la vie. C'est pour ça que j'ai voulu montrer ce qu'était la vie autour de la gare.
Oui, les quartiers qui étaient...
Voilà, quand j'ai montré une poinçonneuse au métro Bastille, quand vous avez les autobus à plateforme, quand vous avez aussi le parc automobile, qui est très intéressant, parce que on voit qu'au début 60...
Oui, automobile aussi, on voit des chevaux aussi.
Enfin, oui, on voit des chevaux. Alors, c'est un parc, c'est encore une France encore très traditionnelle. Et on voit vraiment qu'au tournant des années 60, à partir de 65 à peu près, tout change très vite, si vous voulez.
Et l'une des boutiques qui est dans la gare, une des dernières boutiques et qui s'installe assez tardivement, je crois que c'est une boutique qui vend des petits trains.
Oui, alors c'est un clin d'œil là que j'ai fait,
c'est ça, hein,
parce que c'était juste en bas, en contrebas du premier quai, et 71 rue de Lyon. Il y avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Froment, ça s'appelait chez Froment Tous les Trains, qui était un ancien tailleur, dont le père était tailleur. Et au tournant des années 60, c'était pas quelque chose qui lui plaisait énormément, la passion pour la tailleur était pas tellement forte chez lui, et c'était un peu difficile. Il aimait les trains. Il avait une collection de trains anciens. Alors son épouse lui a dit « Écoute, c'est bien beau d'avoir des collections, mais faut vivre. Mets un peu en vente des collections, parce qu'on a du mal à joindre les deux bouts. » Et il a mis des trains dans une vitrine, et en quelques jours, tout était vendu. Et son épouse lui a dit « Mais voilà, avec le tailleur, on a du mal à joindre les deux bouts. En 3 ou 4 jours, on a vendu tous les trains. » C'est comme ça que cette boutique, qui a eu pignon sur rue,
C'est l'une des photos de ce
très avec beau le
livre.
Général de Bénouville qui aimait les trains, c'est lui qui est en photo. Un député du 12e arrondissement à l'époque.
Voilà, c'est l'une des photos et symbolique de cette fin de gare, en tout cas Paris-Bastille, en plein Paris, place de la Bastille. Aujourd'hui, c'est l'Opéra Bastille à sa place. Il y a 50 ans, Paris-Bastille, Didier Leroy, merci. C'était donc c'est aux éditions de La Vie du Rail. C'est pas le premier livre que vous sortez aux éditions de La Vie du Rail. Eh bien, la nuit des gares se poursuit. Elle se poursuit en gare avec beaucoup de visites de ci, de là. Elle se poursuit. Elle va commencer par Perpignan et puis après on va retourner à la gare de Lyon. Après on ira à la Chapelle, gare internationale. Et voilà, et vous écoutez ça attentivement, Didier Leroy. Merci beaucoup.
Merci.